De retour à l'émission Au gré du temps, nous accueillons avec grand plaisir Jean Cournoyer qui se livre généreusement à travers ses mémoires. On n'a pas beaucoup parlé de votre autre carrière qui a été celle d'animateur, intervieweur. On parlait des débats à l'Assemblée nationale. Vous en avez eu, Dieu sait, des débats à la radio, vous.
Oui, j'en ai eu à la radio. Et vous avez remarqué, ceux qui les écoutaient, que c'était discipliné. On parlait jamais en même temps.
Non, mais...
On parlait jamais en même temps.
Mais Dieu sait qu'il y avait des propos quand même qui étaient très, très enlevants, si j'ose dire.
Ouais, tu sais comment ça a commencé, cette carrière radiophonique? C'est que... M. Parizeau, il avait été nommé ministre... c'était le grand ministre du Québec, puis le grand patron. Puis c'est lui qui a nationalisé l'amiante. Alors... Quand Mathias Rioux animait une émission au poste de radio CKVL à l'époque, il m'avait invité à son émission, c'était le soir, c'était faire 5 heures, c'était une sorte de résumé de la journée. Puis il m'avait invité pour aller parler de la nationalisation de l'amiante. J'avais, comme ministre des Richesses naturelles, dit un non catégorique à la nationalisation de l'amiante. J'avais des raisons pour le dire. D'abord, c'était il y avait des énormes trous, puis moi, acheter des trous, j'aime pas ça. Alors, je l'avais dit comme ça, mais deux de mes fonctionnaires avaient publié un rapport sur l'amiante en particulier, et dans ce rapport-là, ils concluaient qu'il fallait nationaliser la mine d'Asbestos Corporation à Thetford Mines. Et mes fonctionnaires me disaient qu'il ne comprenait pas qu'en lisant le rapport, il puisse arriver à cette conclusion-là. Alors, quand j'étais en campagne électorale à Sherbrooke, et on m'avait demandé si on était élu, si on allait nationaliser l'amiante, c'était un problème très important dans le coin de Sherbrooke, Asbestos, Thetford Mines, etc. Puis moi, j'ai été dire non, on n'achètera pas un trou. J'ai dit, si vous voulez, on va peut-être faire des industries secondaires en haut, là, c'est sur la route, en haut du trou, mais dans le trou, j'achète pas ça.
On reconnaît votre langage imagé. <C'est ça.
rire> Puis là, ben, quand Mathias m'appelle, j'arrive à la radio, puis bon, ça se posait durer à peu près 10 minutes. La chicane prend. Mathias, qui était un tenant de la nationalisation de l'amiante, puis qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens ce que je disais, mais là, la chicane brille le pour vrai, là. Dans le sens que, m'a-t-il montré, mon garçon, qu'est-ce que ça veut dire, nationaliser la mante puis acheter un trou. Ça va coûter les yeux de la tête. Par rapport à ça, je tiens à te dire une affaire, puis je disais ça à Mathias demain. On va, sais-tu que ce qu'on va nationaliser? On va nationaliser l'amiantose. As-tu compris, là?
Et ça a déclenché finalement.
Et là, quand les patrons ont entendu ça, ils ont dit...
On va avoir de la cote d'écoute.
arrêtez pas. Il y a deux techniciens. Laisse-la aller. Ça a duré une demi-heure. Et le lendemain, ils m'ont employé pour travailler avec Mathias. Ça a duré 7-8 ans.
Oui, parce qu'ensuite, vous avez volé de vos propres ailes, si j'ose dire, parce que vous vous êtes retrouvé assez cassé.
Oui, après ça, à un moment donné, j'ai eu des gros mots avec le gars de C'est quoi, qui était devenu le directeur de CKVL. Mais c'était un gars de musique, puis il semble me dire comment faire. J'ai dit, tu parles pas, toi. Fait que finalement, on s'est séparés. J'ai reçu ma lettre de congédiement de CKVL, mais le lendemain, j'ai entré à CKC.
Et curieusement, vous qui avez été ministre du Travail, qui avez eu souvent négocié des conflits avec des centrales syndicales, voilà que vous vous retrouvez en fin de carrière face à quelqu'un qui a vraiment été, j'allais dire, presque un emblème au plan syndical, Gérald Larose.
Je pense que dans le cas de Gérald, les gens s'imaginaient qu'on referait le genre de débat qu'on avait fait avec Mathias ou le genre de débat que je faisais avec Jean Lapierre avant qu'on se sépare.
Mais ça ne s'est pas produit.
Pas du tout. Le tempérament de Gérald et le mien sont des tempéraments qui ne se ressemblent pas. Gérald est un homme fort, un homme capable de défendre des idées, puis des idées profondes. C'est pas juste des faits, là. C'est pas comme moi. Là. Moi, donne-moi un débat, je vais le faire. Mais dans le cas de Gérald, c'est profond. Et c'est On n'a pas la même éducation, on n'a pas le même fougue non plus. Quoique Gérald est très, c'est un type fougueux qui tient à ses opinions.
Ouais.
Mais on ne peut pas faire le genre de spectacle que Lapierre et moi faisions, ou encore que Mathias et moi faisions.
Vous venez de dire un mot qui tout de suite m'incite à vous poser une autre question. Vous avez parlé de spectacle. Est-ce que vous avez l'impression que l'information est devenue de nos jours du spectacle?
Je sais pas si elle l'est restée, mais je sais que dans notre temps, elle l'était. On nous accusait de faire de l'information spectacle, comme si le spectacle et l'information étaient des choses incompatibles. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de Molière, parce que j'ai joué Molière, et parce que Molière était un faiseur de spectacle, qui faisait des spectacles qui frappaient dans le monde. Mais juste être ennuyant, pour être ennuyant, pour pas faire du spectacle, ça donne pas grand-chose. Si t'as pas personne qui t'écoute parce que t'es plate, c'est de valeur, mais tu passes pas aucun message.
Il y a probablement une place pour cela, mais la convergence des médias, est-ce que tout cela ne vous fait pas peur comme citoyen de ne pas voir cette multiplicité des sources, des contenus?
Ben oui, dans un sens, si les contenus des journaux sont des contenus à débat tout le temps. Pour moi, un journal comme La Presse, il y a une page éditoriale et c'est pas autre chose. Les éditoriales, ce sont faits là dans la page éditoriale, les lettres des lecteurs qui peuvent être des opinions, des énoncés d'opinion. Mais dans le cas des journalistes comme tel, l'objectivité, elle doit exister, puis ils ne doivent pas recevoir d'ordre de quiconque. Dans le cas de La Presse, ça existe. Vous tournez chez Québécois maintenant, vous avez le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui sont forts. Fait semblablement, mais vous voyez toute la série. Vous avez raison de dire, ben, Québécois, c'est propriétaire TVA, Vidéotron, le Journal de Montréal, puis probablement tout ce qui s'en vient.
Parce qu'on décline constamment des contenus avec l'illusion qu'il y a une multitude de sources.
Mais les sources, entre vous et moi, un journal qui rapporte les faits, c'est un journal qui rapporte les faits.
Mais justement, est-ce qu'on les rapporte?
Ben, ça dépend toujours de quel domaine. Si vous allez dans les chiens écrasés, c'est facile de dire, c'est au coin de la rue Cherrier puis de la rue Saint-Denis.
Mais l'important, justement, qu'on accorde aux chiens écrasés au dépend de problèmes sociaux plus importants, la santé, l'éducation et tout le reste.
Oui, mais t'as le devoir pour ça. T'as des journaux. Dans le fond, là, le journal qui devrait être le plus financé au Québec là, par l'élite intellectuelle du Québec, de financer pour vrai pour qu'ils vivent comme il faut, c'est le devoir. Les autres, c'est des entreprises de commerce. Puis si vous voulez pas être considéré comme ça, les commerces, tout ce que ça va faire, ça va être diminuer ses coûts puis augmenter sa productivité. Et c'est sûr que pour Québécois, augmenter sa productivité, ça passe par l'utilisation d'une même information puis de la transférer dans différents moyens de communication. Et les autres moyens de communication qui s'en viennent, dans lesquels Québécois commence à prendre sa place, ça dépasse et de beaucoup les postes de radio puis l'entreprise de presse. Vous avez juste à regarder Internet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dessus? Allez sur Google, vous avez toute l'information que vous voulez sur Google.
Oui, mais terminons là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on a nécessairement accès au Chicago Tribune qu'on va savoir davantage ce qui se passe dans le domaine de l'éducation au Québec.
Mais sais-tu ce qui se passe dans le domaine de l'éducation à Sept-Îles, toi? Moi, je ne sais pas. Au Québec, à Chicoutimi, c'est tellement loin, je ne sais pas ce qui se passe là, dans l'éducation ou autrement. Tout ce qu'on va savoir, toi et moi, là, c'est qu'à un moment donné, les hôpitaux, les urgences des hôpitaux, puis pas toutes les urgences des hôpitaux, ça marche pas. Bon, là, il y a un ministre qui va venir nous dire, on va le faire marcher. Il y a un autre gars d'opposition qui va dire, ça marchera pas ta façon. Tu sais, il chicane, puis après, ça marche jamais. Pourquoi ça marche pas? Et qui du peuple peut dire, voici comment vous allez faire ça? Les conflits qu'on a, prends juste le conflit du CHUM. Ça intéresse bien du monde, ça, le CHUM, entre toi puis moi, là. Défaire l'hôpital Saint-Luc, puis en refaire en dedans, un neuf. Ça nous intéresse. C'est une affaire de quelques milliards de piastres. Si on te disait demain matin, bon, prenons un conflit social, la Romaine. On développe-tu la Romaine ou on ne la développe pas? Faudrait en parler de ça avec les gens sur la rue Sainte-Catherine.
Mais est-ce que le devoir de la presse, ce n'est pas aussi de faire éducation, de faire comprendre ces enjeux complexes, ceux que vous énumérez, le CHUM, la Romaine et tout le reste, pour pouvoir prendre une décision éclairée comme citoyen, toujours faut-il avoir des informations pertinentes qui vont pouvoir nous amener à poser un geste.
Oui, mais regarde, là, plus les problèmes sont complexes et qui ont beaucoup de tenants puis des aboutissants, puis c'est, quand t'as vécu comme moi dans le domaine politique assis en haut là, sur ce qu'on appelle un trône là, assis là tu vois que tu peux pas tout expliquer en même temps, que l'esprit humain et surtout les préoccupations constantes de chacun des citoyens sont différentes de la préoccupation du gouvernement d'aujourd'hui. Personne ne sait ce que c'est que le CHUM. Ceux qui le savent, c'est ceux qui doivent le savoir. À un moment donné, quand quelqu'un est frappé par une automobile ou qui est frappé par un cancer, il cherche une institution pour être soigné. Il veut pas savoir comment marche cette institution-là. Il veut être soigné. C'est la même chose tout le temps. Et là, les débats qui nous permettraient de comprendre seraient des débats qui pourraient nous embrouiller davantage. À cause du fait qu'on n'est pas tous des universitaires.
Est-ce que les politiciens ne favorisent pas cet embrouillage? Ben, permettez-moi l'expression.
Écoute bien, oubliez politiciens pour une seconde. Pense au langage de la réforme scolaire pour deux secondes. Parle-moi des formations transversales.
Est-ce que c'est pas dramatique, ça, justement, qu'on puisse imposer une réforme semblable sans que les gens puissent intervenir parce qu'ils n'ont pas suffisamment les éléments d'information pour pouvoir intervenir?
Oui, mais... Mettons que t'es mon client, désespoir. Toi, t'es pogné, t'es accusé, puis là, tu vas me dire comment faire mon métier. Là, on toi et deux devant le tribunal, tu dis, hey, fais pas ça de même, dis pas ça de même, fais ça de ça. Écoute bien, m'a dit, écoute, là, veux-tu prendre ma toge, toi, assis-toi ici, prends ma toge, puis défends-toi.
Alors, la réforme scolaire, justement, parce que vous venez de l'évoquer, c'est pas dramatique, ça?
Bien, encore là, comment, pour moi, la réforme scolaire, je la comprends pas. Je dis, il me semble que c'était simple avant. Tu comprenais A, B, C, D, t'es écrivais en lettres moulées pis en lettres pas moulées, puis là, t'accrochais ça après un autre, ça faisait B, B, A, B, B, baba. Puis là, tu commençais comme ça. Puis là, par ça, tu te rendais au secondaire, puis tu commençais de nouveau ce que t'avais fait à l'élémentaire. Mais là, t'étais supposé savoir lire en entrant au secondaire. Mais on t'a recommençait quand même pendant les six premiers mois. Puis là, au bout du secondaire, t'étais capable d'aller dans un, si t'avais au bout du secondaire, là, tu te rendrais
dans le classique. Oui.
Puis là, tu faisais 8 ans. Là.
Voilà.
Puis après ça, tes 8 ans, tu t'en allais à l'université. Mais tout le monde doit pas faire ça. Là. Moi, je pense qu'on a davantage d'intérêt à développer les capacités des gens dans le domaine technique.
Mais quand je parlais de drame, je parlais peut-être du fait qu'on est en train de peut-être sacrifier une génération avec des réformes qui ne sont pas nécessairement validées, où on essaie de réinventer la roue, en quelque sorte.
Bon, le doute que j'entretiens à propos de la réforme scolaire, c'est qu'elle a été abandonnée en Suisse. Et ça, là, tu dis, voici un petit État qui ressemble au nôtre quant à sa grandeur, qui ont fait la réforme scolaire, puis qui finalement ont décidé de retourner au vieux principe d'enseignement, puis de la façon dont on éduquait les gens avant.
Mais
ça, c'est celle-là qui me met le plus grand doute. Mais entre là, puis comprendre la réforme scolaire, c'est un gros drame, là, je suis pas capable.
Monsieur Cournoyer, en vous entendant au cours des dernières minutes, j'avais l'impression qu'on était en train de refaire ce que vous avez fait toute votre vie après la politique, c'est-à-dire cette radio que vous avez profondément aimée. On parlait d'information spectacle, mais toujours faut-il qu'il y avait beaucoup plus d'informations que de spectacles, avec votre style bien sûr coloré, mais par lequel vous étiez capable de faire œuvre de pédagogie.
C'est là qu'on doit utiliser la radio puis les journaux, en faisant œuvre de pédagogie, mais en sachant à qui on s'adresse. Et dans un auditoire comme celui de votre poste de radio ici, moi, je le connais pas. Je sais donc que je m'adresse à toutes sortes de monde qui ont le temps d'écouter la radio ou qui n'ont que ça à faire, écouter la radio.
Mais les gens qui nous écoutent connaissent bien Jean Cournoyer. Ça, c'est
ça,
certain.
Ça, c'est possible. Mais tout ça pour dire que si prenez un journal, par exemple. faites un journal pour un enfant, puis faites un journal pour une personne qui était dans une institution, c'est ça, pas le même journal.
Vous vous ennuyez de cette radio vous avez?
Beaucoup, beaucoup.
Oui.
C'était pour moi, non pas un moyen de défoulement, mais un moyen de vivre. C'est-à-dire, je vivais intensément la période. Pourquoi je vivais intensément? C'est parce que je savais qu'à tous les jours, je pouvais expliquer des choses que je comprenais peut-être mieux que d'autres, mais dont j'avais appris, en étant jeune, à le rendre accessible à ceux qui nous écoutaient.
Parce que vous avez été un témoin privilégié, il faut bien le dire.
En plus, avec une carrière que j'ai terminée en 76, une carrière que je considère comme étant un homme privilégié, d'avoir pu faire une carrière comme ça si jeune.
Votre côté pédagogue, on n'en parle pas très souvent, mais vous a amené à écrire deux livres d'importance.
Même trois. La mémoire du Québec, tu ne connais pas, toi.
La mémoire du Québec, oui.
C'est la mémoire du Québec. J'ai 25 000 noms là-dedans, des noms propres du Québec, avec toute une explication pour chacun d'entre eux.
Oui, j'allais d'abord dire le dictionnaire.
C'est le petit Jean. Oui. Mais là, la mémoire du Québec, on l'a mis sur Internet parce qu'il est trop gros maintenant. Bon, ça sera un livre qui sera trop considérable. Les imprimeurs ne veulent pas acheter ça, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a décidé de le mettre sur Internet. Il marche pareil comme Wikipédia. Tu rentres sur la mémoire du Québec, puis là, tu peux chercher n'importe quel nom, puis tu vas avoir tout ce qui est écrit sur ce nom-là devant toi.
Et le troisième, parce que vous parliez de trois livres?
Ah, moi, j'ai écrit... un peu là.
Mais il y a fameux, il y a le dictionnaire, ça, le petit Jean.
J'ai écrit l'histoire de la famille Desourdis, qui se trouve à toucher aussi au Stade olympique puis à l'Expo 67.
La généalogie vous a toujours fasciné?
Non, c'est mon idée, c'était, m'a dit comment ça m'est arrivé. Je faisais des mots croisés, puis les dictionnaires qu'on a sont tous les dictionnaires français. Quoique Larousse vient d'ajouter des noms du Québec, là, mais on n'avait jamais dans les mots croisés d'Anecar dans la presse, on n'avait pas de géographie québécoise puis ou de personnalité québécoise là-dedans. Puis j'ai dit, bon, ben, ce que je vais faire, moi, vous en donner un dictionnaire. Parce qu'Anecar m'avait dit, ben, il n'y a pas de dictionnaire. Puis quand on a des mots croisés, il faut qu'on ait des possibilités de référence en quelque part. C'est là que j'ai fait le petit Jean. Le petit Jean, c'est devenu la mémoire du Québec quand il était devenu plus épais. Puis finalement, ben là, il ne peut pas être plus épais que ça. Fait qu'on l'a mis sur Internet. Mais l'idée générale, c'était que toi, par exemple, tu puisses chercher ton nom et puis tu vas trouver ceux qui l'ont porté à partir du début, puis ceux qui l'ont glorifié ou qui l'ont martyrisé.
Je cherchais, parce que je vous rappelle que nous nous entretenons présentement avec Jean Cournoyer, si on cherchait Jean Cournoyer dans votre dictionnaire, qu'est-ce qu'on y retrouverait?
Là, ben, écoute, je peux te dire une affaire, j'ai quasiment fait le dictionnaire juste pour avoir mon nom dedans. Non, mais tu pourrais trouver ma carrière au complet, mais ouais. pas aussi détaillée que celle que je fais dans un CV. Mais tu pourrais trouver je pense que j'ai... D'abord, j'ai le nom des 2500 municipalités du Québec sont dedans au complet avec leur histoire.
Après ou avant la fusion?
La fusion est dedans.
Oui.
J'ai fait une erreur, je ne peux pas parler de ça, mais après ça, tu peux trouver, par exemple, juste une idée que j'ai eue à un moment donné. J'ai mis tous les soldats québécois qui ont été tués à la guerre de 14-18, puis celle de 39-40, puis en Corée, puis là, je continue de mettre ceux qui sont tués en Afghanistan.
Donc, ça occupe beaucoup votre temps, ça?
À tous les jours.
C'est une passion.
À tous les jours, et ça occupe mon temps, puis je suis convaincu que ça va être utile pour les Québécois.
C'est un hobby utile.
Oui. Puis il va l'être. Sais-tu combien de personnes, à chaque mois, viennent consulter la mémoire du Québec? 37 000. Et ils se promènent à 1 million de clics qu'ils font pour aller dans la mémoire. Parce qu'une fois que tu rentres dedans, tu as toutes tes références dedans, tu cliques, puis tu vois l'autre nom, puis tu vois l'autre nom, puis tu vois, par exemple, qui est venu au monde à Rivière-Ouelle. C'est où ça, Rivière-Ouelle? Si tu ne restes pas en bas de Québec, tu ne sais pas.
Alors vous êtes de ceux qui se sont bien adaptés avec la technologie d'Internet, par exemple.
Sûrement. Internet, c'est mes fils, mais avec l'ordinateur, là, c'est à deux doigts.
Monsieur Jean Cournoyer, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, quand vous regardez l'ensemble de cette carrière, vous en retenez quoi au plan des... D'abord, quelles sont les valeurs qui vous ont porté tout au cours de votre vie?
c'est pas moi, c'est une... Est-ce que je peux identifier des valeurs? Non, je peux pas identifier. J'ai un comportement qui est naturellement tend vers la solution des problèmes plutôt que de les créer, les problèmes. J'ai toujours été avec un esprit ouvert dans n'importe quelle situation de conflit. Que ce soit un conflit avec ma femme ou avec mes enfants ou entre mes enfants, j'ai toujours eu l'esprit dirigé. C'est une façon innée. T'sais, ça s'apprend pas, ces affaires-là. Tu dis, bon, OK, je vais me mettre entre les deux. Mais j'avais expliqué une fois comment c'est que ça se produisait. Si t'as pas un matériau en deux plaques de fer, les flèches vont se coucher. Mais si tu y mets un petit coussin entre les deux, t'as des grosses chances que ça soit plus smooth. Puis qu'il n'y ait pas de flèches, puis que le feu prenne pas.
Mais de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a le plus animé? Est-ce qu'il y a...
Je pense que c'est la radio qui m'a le plus animé. C'est pas le poste de ministre, ça a été une chose extrêmement difficile qui m'a fait, entre guillemets, perdre 6 ans de ma vie. Pour à peu près pas grand-chose, parce qu'à la fin, je suis passé dans le retardeur de la commission de Tlich. Puis après ça, je suis passé dans l'oubli aussi, heureusement que j'ai eu à la radio. Mais c'est surtout la radio, parce que la radio, c'était une affaire journalière qui te permettait de régler des conflits, même si tu ne les réglais pas directement.
Vous avez vraiment l'impression que vous avez pu régler des conflits par la radio?
C'est-à-dire que l'influence qu'on a sur ceux qui nous écoutent et nous entendent, elle fait réfléchir ceux qui sont mal pris. Elle les fait réfléchir, parce que très souvent, dans les conflits que j'ai remarqué, ton conflit naît d'une incompréhension de l'autre côté, puis que de l'autre côté n'accepte pas que toi aussi tu as des problèmes.
Il y a un problème de communication essentiellement.
La plupart du temps. Et la radio, c'est de mettre en présence tous ceux qui t'écoutent. Ils écoutent la même affaire, tu le disais tantôt. On écoute tout en même temps la même explication. Là, c'est pas des explications confuses. Je t'en donne une explication. Mon voisin va te donner une autre explication qui est la sienne. Et à partir du moment où tu les as tous les deux, c'est toi qui fais ton jugement. Tu portes ton jugement. Puis une fois que tu as porté ton jugement, ça peut être sur ta propre conduite comme ça peut être sur la conduite de l'autre.
Jean Cournoyer, qui a été constamment dans le feu de l'action, n'a pas toujours eu de grandes périodes de répit. Vous le disiez, vous dormiez peu parce que l'action était toujours là pour vous rattraper. Mais est-ce que vous aviez le temps d'avoir quand même, on a tous besoin d'une vie intérieure, la quête de sens. Comment vous...
J'avais pas le temps, moi. Honnêtement, j'avais pas le temps.
Est-ce que maintenant, vous avez un peu plus de temps accordé à cette réflexion intérieure?
Disons que j'aime pas parler de ça comme tel. Je suis pas le gars qui dit, moi, écoute, je me suis donné une vocation, puis j'essaie de la faire. C'est pas ça. J'ai une attitude devant les choses. Je pense que je peux aider mes concitoyens. Et la façon de l'aider, ben, dans le temps, c'était ministre. Après ça, c'était à la radio. Puis aujourd'hui, c'est avec un dictionnaire pour leur permettre de se connaître puis de connaître qui ils sont. Puis d'où ils viennent, d'où ils s'en vont. Pour savoir où tu t'en vas, faut que tu saches d'où tu viens, puis ça, c'est clair. Mais faut que tu saches aussi qui a fait ça, ces choses-là. Le nom que t'as, toi, là, y a-tu quelqu'un dans ta famille qui a fait quelque chose de bien au Québec? Y a-tu été député? Tu sais, quand t'as eu... J'ai à peu près 1500 députés là-dedans. 1500 juges là-dedans. C'est des gens qui ont des carrières, puis personne ne le sait. Sauf que dans la mémoire du Québec, tu peux le retrouver. Tu peux dire, gardons ça, c'était tu parent, ces deux-là. Lui, il s'appelle Laporte, puis d'un coup, il y a un autre qui s'appelle Laporte. Tu devais être parent, ces gens-là. Juste la réflexion sur ça. Puis, tous les ancêtres, avant 1730, sont là avec leur première portée.
Êtes-vous un rat de bibliothèque?
Non, j'ai tout ça dans la maison chez nous. Tu sais, on a tout ça, puis aujourd'hui, Google te donne tout ça aussi. Wikipédia te donne tout ça, mais moi, je te le donne juste pour le Québec.
On n'a pas parlé non plus, écoutez, c'est une passion, là, de parler de l'histoire du Québec, des noms importants du Québec. Vous avez touché aussi à la vie municipale, on n'aura pas le temps d'en parler, mais un mot, vous avez été maire de Dollard-des-Ormeaux.
Moi, j'étais maire, ça, c'était parce que j'avais été défait en 76, puis je voulais voir si les gens qui m'avaient défait...
En un mot, qu'est-ce que vous retenez? Vous vouliez
la
voir
mairie,
si les gens...
La mairie, je me souviens qu'il n'y avait pas eu de grève, puis les vidanges ont été ramassées à tous les matins.
Vous alliez dire, vous vouliez voir si les gens qui vous avaient défait...
Mais attendez, j'avais été défait dans le comté de Chambly, qui n'était pas mon comté. Il n'y a pas de Chambly, de Richelieu.
Oui.
Mais les gens qui m'avaient élu, c'était les gens de Dollard-des-Ormeaux.
Oui.
Robert m'envoyait à Sorel pour. Puis là, je n'ai mangé de maudit. Fait que là, je suis revenu à Dollard-des-Ormeaux, puis j'ai été voir si eux autres avaient un bon souvenir de Tijan. Et ils m'ont réélu avec une très forte majorité comme maire de Dollard-des-Ormeaux.
Vous en gardez un bon souvenir.
Un très bon souvenir de Dollard.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de Jean Cournoyer?
Mon dictionnaire.
Mais de toutes vos actions, de votre action politique, de votre passage en politique, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'histoire retienne de ce ministre du Travail?
Probablement ce qu'il retienne aujourd'hui, c'est le bon gars, c'est pas mauvais. Il a fait son travail quand il fallait le faire, puis qui aujourd'hui ben, fait d'autres choses. Mais, tu sais, là, regarde, on en parle tous les deux, puis je veux pas te dire ton âge, je le connais pas. Mais moi, j'ai 75 ans. Quand j'ai été battu en 76, ça fait combien d'années, ça? Ça fait au-delà de près de 32 ans. 32 ans, là. Il y a combien de nos auditeurs aujourd'hui qui n'étaient même pas nés dans ce temps-là? Ils vont se souvenir de Jacques Cartier puis de Chamblain, mais tu as Jean Cournoyer, ça va, c'est fini, ça.
Mais raison de plus de mettre ce nom dans le dictionnaire.
Pas pour rien, j'ai mis là.
Est-ce que de tous ces passages dans différents métiers publics, la politique, la radio, la mairie, est-ce qu'on garde de nombreuses amitiés ou on se retrouve profondément seul?
Profondément seul. Les amitiés qu'on peut se faire sont des amitiés politiques dans un cas. Ça dure le temps de la politique. Une fois que tu es sorti de la politique, comme ils m'ont sorti, les gens ne te rappellent pas. T'sais. Quand j'ai perdu les élections en 76, ça a pris au moins 6 mois que quelqu'un m'appelle. Puis ceux qui m'ont appelé, c'est deux jeunes qui opéraient un clos de bois d'Orval, puis ils m'ont demandé si je pourrais vendre du bois pour eux autres.
Jean Cournoyer est un homme heureux.
Très heureux.
Votre destination bonheur pour les prochaines années, quelle serait-elle en terminant?
D'avoir la santé comme je l'ai aujourd'hui, puis surtout ça, la santé.
Ben, à ce gentilhomme que nous avons reçu au cours des 2 dernières semaines, on doit dire, au nom de tous les auditeurs, un grand merci.
Ça fait plaisir.
Ça a été vraiment un plaisir extraordinaire que de se rappeler ces périodes mouvementées de l'histoire récente du Québec, mais à travers les yeux de quelqu'un qui a été un membre actif au sein de cette action politique et aussi de cette présence à la radio. Monsieur Cournoyer, on va vous souhaiter la santé, on va vous souhaiter plein de bonheur. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup.
C'était donc l'émission Grille du temps. Notre invité était Jean Cournoyer, ici Armand Dubois, qui vous souhaite de passer une excellente semaine. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique d'Alain Primeau. Au plaisir. Au revoir.